Bonjour pour ce nouveau format de podcast sur le rap. On se retrouve avec Sian, Léo Sandro, Mao, Ethan et moi-même. Dans ce format, on vous propose deux chroniques, une sur l'histoire du rap et une sur les artistes qui ont marqué cette histoire. La première chronique, qui arrive tout de suite, va vous être présentée par Ethan. Ethan, c'est à toi.
Le rap prend ses racines dans la culture musicale jamaïcaine, afro-américaine et portoricaine. C'est la pratique du talkover qui joue un rôle essentiel sur la naissance du rap au cœur des ghettos noirs américains, particulièrement le Bronx. C'est avec les clashs dans les blocs parties entre quartiers autour de battles de danse que certaines personnes commencent à parler en même temps que la musique qui passe. Le talkover, c'est ça. Les clashs évoluent vers les routines, une discussion rappée en musique entre les artistes plus rythmés que le talkover. C'est en 1980 que le rap tel que l'on connaît naît. Avec l'évolution technologique, c'est le début des enregistrements et donc des labels. Mais initialement, le rap est né avec les clashs et dans les gangs. La violence finit par là, c'est tout le monde. C'est le début d'un mouvement basé sur le positivisme et la paix. Le début du rap conscient et l'âge d'or du rap. Le rap conscient attire aussi la censure comme les titres Cop Killer ou les chansons qui parlaient de porno. D'où la création du logo Parental Advisory, que vous connaissez tous. L'expansion du rap conscient est coupée par la commercialisation du rap. Les labels se mettent à produire des artistes qui rappent des textes sans fond et sans vocabulaire. Une nouvelle vague d'artistes arrive, c'est la New School. Deux fois plus créatifs pour contrebalancer le rap commercial, ils seront aussi beaucoup plus axés sur le flow, alors que les rappeurs old school pensaient avant tout à l'écriture. C'est aussi le début du gangsta rap, basé sur les gangs et la drogue. Des dealers montent un label avec l'argent de la drogue et signent des artistes de gangsta rap. Un des artistes les plus marquants de l'histoire, Tupac. Sa mort va alimenter les guerres de gang, le clash East Coast, Bad Boy Records, P. Diddy, Notorious Big, West Coast, Death Row Records, Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg. Plus tard, on voit apparaître les deux artistes les plus rentables de tous les temps, Eminem et 50 Cent. Dans les années 2000, les rappeurs qu'on connaît aujourd'hui ont monté des labels et produit chacun un nombre incalculable d'artistes. Cette culture musicale a traversé les frontières pour arriver jusqu'en Europe. À ce jour, le rap nous a influencés dans de nombreux domaines, comme par exemple le style vestimentaire.
Merci Ethan pour ce passage sur l'histoire du rap qui était passionnant. On ne vous quitte pas, on reprend tout de suite avec les artistes qui ont marqué cette histoire. On parlera notamment de Supreme MTM, d'Eminem et Orelsan. Je laisse la parole à Léo Sandro, Mao et Sian.
Eminem, de son vrai nom Marshall Bruce Mazel Tree, né le 17 octobre 1972 à Saint-Joseph, dans l'état de Missouri, est un rappeur américain également producteur, acteur et fondateur de labels. Eminem a vendu plus de 227,5 millions de disques uniquement aux États-Unis, figurant ainsi parmi les artistes ayant vendu le plus de disques d'or aux États-Unis. Eminem possède trois albums solo certifiés, Diamant, The Marshall Mathers LP, The Eminem Show et Curtain Call, ainsi que trois singles certifiés Diamant avec Lose Yourself, Not Afraid et Love the Way. Il compte plus de 600 récompenses, dont 15 Grammy Awards et un Oscar. Il est cité dans de nombreuses listes énumérant les meilleurs artistes de tous les temps, le magazine Rolling Stone l'ayant même déclaré roi du hip-hop. Encore inconnu du grand public, Eminem publie son premier album, Infinite, en 1996. Le disque est un échec commercial, notamment à cause du fait qu'il a été produit en indé. C'est avec son premier extended play, nommé The Slim Shady EP, en 1997, qu'il commence à percer dans certaines sphères. Il n'obtient qu'une popularité mondiale qu'après la sortie de son deuxième album, The Slim Shady LP. Le rappeur enchaîne en 2004 avec l'album Encore, après une retraite forcée de 5 ans. Eminem fait son retour en 2009 avec l'album Relapse, laissant derrière lui ses problèmes d'addiction à la drogue. L'année suivante, il sort son 7e album studio, Recovery, qui est un succès commercial planétaire. Bien qu'étant un grand échec critique, il est l'album le plus vendu de l'année 2010, tout comme l'a été The Eminem Show en 2002. En fin 2013, Eminem publie son 8e album studio, The Marshall Mathers LP 2, qui lui permet de gagner au Grammy Award pour un The Monster et le second dans la catégorie du meilleur album rap de l'année. The Marshall Mathers LP 2 est aussi le second album le plus vendu de l'année aux États-Unis. En novembre 2014, Eminem publie Shady 19, une compilation pour fêter ses 15 ans de son label Shady Records. Ce dernier devenant le disque de hip-hop le plus vendu de 2018, en 2020, il sort son nouvel album Music to be Murdered By. Cet album est fortement inspiré des œuvres d'Alfred Hitchcock. Eminem est également un entrepreneur actif, il a notamment créé son label Shady Records. Slim Shady and all of us. Hockey. Let's all stand up.
Orelsan était à l'origine un jeune perdu dans les rues de sa ville, Caen. Le film, Comment c'est loin, retrace les prémices de sa carrière avec son acolyte, Gringe. Ils formeront ensuite les Casseurs Flotteurs. Perdu d'avance, son premier album solo sort en février 2009 et propulse sa carrière. Il y raconte son quotidien de jeune lambda, ses soirées, ses sorties ratées dans les rues de Caen avec ses amis. Il est perdu entre le sentiment d'avancer dans sa vie et de rester bloqué dans ses actions répétitives.
Putain, plus j'avance, plus je grandis, plus je comprends rien.
Cet album le révèle au grand public. Il réussit à s'extirper de son quotidien pour une carrière qui lui réussit. Mais il n'est pas satisfait.
J'entends les chants des sirènes, regarde autour de moi tous ces gens qui m'aiment. Je veux toucher le soleil avant que la pluie ne vienne. T'inquiète pas, seuls les faibles se font bouffer par le système.
Dans son deuxième album, Le Chant des Sirènes, il nous parle de sa réussite et de comment son succès l'a éloigné de son lui d'avant.
Au final, je crois que je me suis fait bouffer par le système.
C'est aussi dans cet album que sort Suicide Social, un morceau très cru qui choque. Il pointe du doigt tour à tour tous les groupes sociaux. Un manque de tact qui lui aura valu autant de critiques que de succès. Son troisième album, La Fête est finie, marque un tournant dans sa carrière solo, avec le début des featuring sur ses albums. Il y décrit le sentiment de nostalgie qu'il éprouve pour l'époque où il était encore à Caen, avant que sa carrière prenne tant de place dans son quotidien.
Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer.
Il a l'impression d'avoir fait le tour et de rester bloqué au sommet. Orelsan est aussi humain, et les critiques de ses fans l'atteignent et le poussent à la réflexion. Les mots de certains créent dans ses textes une nostalgie paradoxale.
T'aimais mieux quand j'étais moins connu, sauf que tu me connaissais pas non plus.
C'est aussi le début d'une longue période où Orelsan se sent vieillir et prend conscience de l'incohérence entre son mode de vie et son âge.
T'es un jeune cool, maintenant t'es plus qu'un oncle bizarre.
Il tire de cette période de questionnement beaucoup de leçons de vie, qu'il aligne avec humour et justesse dans son titre « Note pour trop tard », qui dure plus de 7 minutes. Son dernier album, Civilisation, sorti fin 2021, a été bien accueilli par les publics et les critiques à l'unanimité. L'album a été annoncé avec le titre « L'odeur de l'essence », un texte qui « dépeint la société comme un sociologue » d'après Macron. L'album a été annoncé avec le titre « L'odeur de l'essence », un texte qui « dépeint la société comme un sociologue » d'après Macron. Il dédie trois morceaux à sa femme, Bébé Bois, Ensemble et Athéna, et un morceau à son ami Gringe, Jour Meilleur. Ce dernier avait disparu de la scène du rap français.
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi.
Cet album, comme les précédents, n'échappe pas à la règle. On y retrouve un feat avec Gringe, Casseur Flotteur Infinity, des textes écrits avec un peu plus de légèreté.
Hé hey Gringe.
Ouais.
Tu vois, quand dans les films, y a plus personne qui peut sauver le monde et ils sont obligés de réunir une équipe d'experts qui a pas travaillé ensemble depuis longtemps.
Non, je vois pas.
J'ai fait un album qui parle que de ma meuf et de la société, ça te dit qu'on fasse un morceau.
Orelsan est un artiste qui a su évoluer à travers les années, depuis son premier album en 2009, s'affirmer dans des styles différents et qui a su trouver sa place dans la scène musicale française.
Ben, nous, on prétend être ce qu'on fait. Déjà, je crois que c'est balèze, non?
Si t'entretiens ta passion, déjà, à la base, je sais pas, c'est...
Ouais, c'est une passion, déjà, je veux dire, tu vois ce que je veux dire?
Si tu fais ça...
Enfin, moi, je ton job en même temps, attention, quoi, mais je veux dire, c'est une passion, ouais.
Joe Star et Kulchen sont originaires du département de Seine-Saint-Denis. En juillet 83, ils assistent à une prestation de hip-hop, place du Trocadéro par des danseurs américains. Tous deux marqués par cet événement, ils commencent à danser ensemble. Le break pour Kool Shen et le smurf pour Joestar. Le duo a poursuivi dans cette voie et ont commencé à graffer ensemble. Ils rejoignent tous les deux le collectif 93 MTM et se sont tournés vers le rap. Ce groupe deviendra par la suite Supreme NTM. Parmi les nombreux styles qu'emprunte Supreme NTM, le rap conscient en fait partie. Avec le morceau « Laisse pas traîner ton fils », il dénonce l'abandon des enfants par leur père, se servant de leurs propres expériences. Avec d'autres sons, il rappe sous des airs plus festifs comme avec « La fièvre » sorti en 1995 de leur album « Paris sous les bombes ».
Tout a débuté un matin quand à 10h10 je fus tiré du lit par l'emmerdeur de service. Mon voisin du dessus en bon fan d'Elvis passe ses week-ends à foutre à fond des lives de Memphis.
Le morceau retrace le chemin d'une soirée à son lendemain. Le groupe est polyvalent dans leur maîtrise de nombreux styles, passant du conscient sérieux et qui dénonce à du festif aux teintes hardcore. Le duo est complémentaire. Joestar et sa voix éraillée est agressive dans son phrasé. Quant à Kool Shen, sa voix est plus posée, son flow est plus lyrics, qui se prête mieux à des paroles plus nostalgiques. Il fut l'un des premiers groupes de rap français. Ils ont porté haut et fort les revendications des jeunes dans leur crise des banlieues et à dénoncer leurs conditions de vie. Nombreux sont les rappeurs actuels à s'en inspirer. Supreme NTM marqua l'histoire du rap français et les mémoires.
Et voilà, ce podcast sur le rap est déjà terminé. Il est temps pour nous de vous quitter. Nous vous remercions pour votre écoute et votre temps qui nous a été accordé, en espérant que ça vous ait plu. Nous laissons la place à la prochaine chronique en vous souhaitant une bonne journée et à bientôt.